Nous allons maintenant écouter Monsieur Jean-Jacques Gomez. Il me semble que... Non, c'est bon. Oui. D'accord. Donc, conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien avocat au cabinet Alain Bensoussan.
En effet. Merci. Qu'allais-je pouvoir apporter au débat de cette table ronde ? Telle fut, je dois vous l'avouer, ma toute première interrogation en lisant le programme de la journée. Et il me fallait, par conséquent, éviter autant que faire se peut d'empiéter sur les interventions des différents conférenciers et rapporteurs. Et j'ai bien fait, parce que en écoutant déjà les deux premiers rapports, eh bien, je découvre qu'il y aurait eu redite de ma part. Par conséquent, j'ai bien fait d'aborder les questions du numérique et de l'approche numérique sous un autre angle. J'ai délibérément fait le choix de vous parler principalement de la place et du rôle d'un personnage omniprésent, mais pourtant peu cité dans les commentaires et dans les analyses de la loi. Vous l'aurez sans doute deviné, vous l'aurez identifié, il s'agit du juge. On n'en parle pas, vous remarquerez, jamais. Les lois sont votées, un peu comme dans tout le Parlement est assez riche de ce point de vue-là. Il pond des lois, pardonnez l'expression, sans jamais l'accompagner des moyens correspondants, et il en ira à peu près de même pour cette loi-là. Et vous verrez pourquoi. Avant pourtant de consacrer quelques développements à l'office du juge, je souhaite néanmoins vous livrer une courte synthèse de cette loi. Et je reviens nécessairement sur quelques éléments que vous avez déjà développés. J'ai retenu d'abord un mode d'élaboration partagé qui pourrait préfigurer un nouveau modèle de construction législative, avec les réserves que vous avez exprimées tout à l'heure, à la fois sur le nombre de participants à cette construction partagée et sur l'impact au plus profond des internautes que cette consultation a pu avoir. Il n'empêche que l'existence d'une plateforme en ligne sur laquelle le citoyen a pu proposer sa contribution a pu séduire notamment les jeunes, mais beaucoup, il ne faut pas se voiler la face, les plus concernés, les professionnels, les groupes de pression habituels, etc., si bien qu'on arrive à un chiffre, somme toute raisonnable, mais enfin qui n'est que très peu représentatif des usagers de l'Internet. Donc c'est quand même 25 000. Il n'empêche que c'est un début. Je pense qu'il faut retenir l'idée, peut-être la développer davantage dans le temps, vous savez comment nous faisions. Moi, il m'est arrivé de lancer des consultations nationales sur des sujets, mais après, il fallait recueillir les éléments, les faire traiter en commission, faire des rapports, etc. Et on aboutissait à ces résultats qu'aujourd'hui, en quelques minutes, on peut avoir en ligne, ce qui est quand même assez enrichissant. Donc allons-y. Alors ensuite, sur le contenu à proprement parler de ce texte, que les commentateurs analysent le plus souvent en trois points, mais vous les abordez, donc je n'y reviendrai pas, sauf pour citer les éléments déterminants, la circulation des données et du savoir, la protection des droits dans une société numérique, et enfin l'accès au numérique. Alors si vous voulez, j'ai retenu de cette loi un certain nombre de points qui pourraient faire l'objet de contentieux. Je les cite simplement pour ensuite aborder le sujet que je voulais aborder de manière très brève avec vous. La neutralité du net, l'accès aux documents administratifs, avec une interrogation première sur les infrastructures mises à disposition des administrations et autres établissements publics ou établissements publics à caractère industriel et commercial. La mise à disposition des décisions de justice, qui est important aussi. La mort numérique, mais qui sera traitée aussi cet après-midi. La portabilité des données en vertu duquel le consommateur dispose d'un droit de récupération de l'ensemble de ces données. Le droit, et surtout cela est important, vous allez également le traiter, à une information loyale, claire, transparente sur les conditions d'utilisation des services de plateforme en ligne. L'accès aux services des personnes handicapées. Les obligations de service universel sont autant d'éléments essentiels de la loi. Personne ne pourra le contester. Mais après avoir énuméré ces droits, il faut quand même s'interroger sur les moyens de les faire respecter. Et c'est là qu'entrent en jeu les différents régulateurs. Alors parmi les régulateurs, vous avez évidemment les régulateurs administratifs, les différentes commissions qui ont été créées ou qui existent ou auxquelles on a donné davantage de pouvoir par la loi récente, ou les juges. Les juges sont aussi une certaine forme de régulateurs. D'ailleurs, j'ai le souvenir que quand je traitais le contentieux de l'Internet à ses débuts, c'est-à-dire dans les années 90 jusqu'à 2002, eh bien, j'étais présenté un peu comme le régulateur parce qu'il n'existait pas de texte, à part un texte de 86. La loi, la LCEN, n'a vu le jour qu'en 2004. Et donc, à l'époque, c'était le juge qui, en fait, faisait office de régulateur. Et je pense avoir pu apporter une contribution utile dans différents dossiers. Je ne sais pas si les affaires comme Brel, Sardou, Quesnot, Yahoo, Fonds 14, etc. vous rappellent quelque chose. Enfin, ce sont toutes ces affaires que j'ai traitées et qui me poursuivent encore. Puisque dans toutes mes conférences à l'étranger en particulier, c'est comme si c'était hier. Et ils sont toujours intéressés au processus de construction juridictionnelle, cette fois-ci, qui a pu aboutir au traitement de ces affaires. En effet, le citoyen, aujourd'hui, mais cela n'est pas propre au numérique, ne se satisfait plus de discours, de commissions, de réunions, de décisions de justice, si celles-ci ne permettent pas ou ne facilite pas un règlement rapide de leurs différends. Le problème est là, c'est que nos concitoyens ne peuvent pas comprendre qu'une affaire banale puisse mettre 3 ans à être jugée, alors vous imaginez, face à l'Internet, qui est un réseau ultra rapide, attendre 3 ans pour qu'une question de droit, une question de principe soit tranchée, ça devient insupportable. Du coup, ce sont des organismes plutôt administratifs, para-administratifs, qui se sont un peu substitués aux juges, et je conteste cela. Moi, je suis pour la place du juge dans le contrôle des différents, en tout cas juridictionnels et juridiques sur l'Internet. La question des délais est donc devenue essentielle pour tous nos concitoyens, qu'il s'agisse donc du numérique ou d'autres dossiers. Mais aujourd'hui, nous parlons surtout du numérique. Et je m'autorise pour cela à plaider pour la création, et ça pourra peut-être faire l'objet plus tard de votre part d'une réflexion, pourquoi pas, la création d'un juge spécialisé, un peu comme on a pu spécialiser à l'époque, quand j'avais participé à la commission, on avait créé les juridictions spécialisées en matière de droit d'auteur, j'avais voulu cette spécialisation parce que considérant que les droits d'auteur qui étaient éparpillés entre toutes les cours d'appel, etc., voire même les petites juridictions, cela devenait impossible à gérer. On a quand même créé des cours spécialisés en matière de droit d'auteur, des juridictions spécialisées. Eh bien, un juge spécialisé, mais alors qui serait également formé aux technologies de l'information et de la communication. Je ne nie pas la qualité de l'enseignement dispensé à l'école de la magistrature. Je vous assure que l'école fournit vraiment une formation très intéressante. Mais il y a une nuance entre la formation à l'école et la formation sur le terrain. Sur le terrain, il faut que cette formation continue, il faut que le juge puisse s'activer perpétuellement dans cette connaissance des questions de l'Internet, du réseau, etc., et de la communication électronique. Et de manière à ce qu'il puisse contribuer à une régulation utile et rapide des différends qui pourraient naître. Tout à l'heure, je vous ai cité quelques éléments de cette loi qui pourraient donner lieu à des contentieux. Prenons l'exemple de la neutralité du net. Alors c'est vrai, entre les organismes administratifs, les pouvoirs du ministre, etc., sur le respect de la neutralité, il y a quand même une notion qui est importante parce qu'on dit on aurait par cette loi balayé la difficulté relative à la neutralité. On aurait fait plier les prestataires qui étaient un peu trop gourmands. Oui, sauf que vous aurez toujours un élément très important dans le débat, c'est celui du caractère légitime de l'atteinte à ce principe. Et là, qui va décider du caractère légitime ou illégitime de l'atteinte au principe de neutralité, sinon le juge? Vous voyez déjà une question. Alors quel juge? Il peut s'agir du juge administratif, je n'en disconviens pas, il peut s'agir du juge judiciaire, moi, peu m'importe. Quand vous traitez l'accès aux décisions de justice, l'accès aux décisions de justice, eh bien, vous conduit à vous interroger sur l'identification des parties aux décisions de justice. D'ailleurs, à la Cour de cassation, nous avions décidé de veiller à ce que les noms n'apparaissent pas. Mais tout cela est assez dérisoire, en réalité, parce que, si vous voulez, les professionnels du droit, les professionnels de la technique, parviennent à identifier une société, etc., à partir, par exemple, du numéro d'un brevet ou du nom d'un brevet. Vous voyez, quand on est en propriété intellectuelle, le brevet numéro un tel, si on fait une recherche, on saura que c'est la société un tel ou c'est monsieur un tel qui a déposé ce brevet, finalement son identification est facilitée. Mais elle n'apparaîtra pas immédiatement dans la décision. Et d'ailleurs, cette anonymisation est importante. Et il faut que le juge contrôle tout cela. On ne peut pas se permettre de voir sur Internet, quand vous tapez certaines décisions, quand vous tapez Internet, recherche, décision, des décisions sont, pour certaines d'entre elles, absolument pas anonymisées. Vous trouvez les noms de toutes les parties, etc., ce que je trouve proprement scandaleux. Parce que là, le droit à l'oubli, je vous assure que vous le perdez. Hein, parce que de salles d'ouvrages spécialisés en forum, etc., eh bien, ces décisions, votre nom, les faits qui vous sont imputés ou dont vous avez été victime sont présents et vous aurez bien du mal à vous en dégager. Ensuite, j'avais vu d'autres petits points qui pouvaient être intéressants, en effet. Je ne vais pas revenir sur tout parce que je pense que je prendrai beaucoup trop de temps sur votre conférence. En tout cas, il y a de la place pour un juge. Alors maintenant, quel juge ? Quel juge, effectivement ? Il se trouve qu'à l'époque, c'est vrai que j'étais juge principalement des référés, puisque j'occupais une fonction, j'ai été juge des référés pendant près de 25 ans. Donc, juge des référés, c'est-à-dire le juge qui statue rapidement. Rapidement, c'est une notion toute relative, parce que dans l'affaire Yahoo, j'ai quand même mis 6 mois à traiter le dossier Yahoo, mais par 3 audiences successives. Donc, par rapport au référé, où certains avocats vous disent, oui, enfin, un référé qui dure 6 mois, c'est quand même un peu long. Oui, n'empêche que la même affaire traitée au fond aurait pris 3 ans, sinon 4. Ou peut-être jamais, elle n'aurait peut-être jamais abouti parce que certains auraient renoncé à saisir le juge. Eh bien, en référé, on a quand même réussi à faire un certain nombre de choses, initier des procédures assez originales. Et d'ailleurs, pour vous indiquer ce que peut faire un juge, par exemple dans l'affaire Yahoo, constatant qu'il y avait une véritable difficulté, notamment internationale également, puisqu'il me fallait intervenir sur le sol américain d'une certaine manière, pas directement mais indirectement, eh bien, je me suis dit, une des solutions consisterait à choisir un groupe d'experts autour de moi, parmi lesquels, des experts qui auraient du mal à se déjuger plus tard dans leur avis technique. Et c'est ainsi que j'ai pris Vinton Cerf, qui était quand même le père de l'Internet aux États-Unis, Ben Laurie, qui était un spécialiste du logiciel libre en Angleterre, et puis un expert français, parce qu'il fallait bien que le collège fût composé. Eh bien, le fait que ces 3 experts, américains, anglais, français, se soient rencontrés, ont permis de m'apporter un certain nombre d'éléments. Moi, je ne leur demandais pas de prendre position, parce que c'était la crainte de l'américain, notamment. Il ne voulait pas prendre position contre le système américain, etc., surtout sur la liberté totale qui existait. Et donc, mais ils m'ont fourni le matériau qui m'a permis de rendre des décisions. Alors donc, le juge des référés, parce que c'est une procédure souple, parce que quand on sait la manier, eh bien, on peut aller très très vite et dans tous les domaines. Et d'ailleurs, j'ai même suggéré à l'époque la création d'un référé de fond pour tout ce qui a trait à l'Internet, etc. Eh bien, oui, référé de fond, d'ailleurs, c'était un peu ce à quoi on avait abouti, puisque dans les affaires que je citais tout à l'heure, il n'y a pas eu une seule instance au fond. Bon, tout s'est arrêté au niveau du référé, sans recours d'ailleurs. Je n'ai pas eu, même Yahoo n'a jamais fait recours devant la cour d'appel de Paris des décisions que j'avais pu rendre. Donc ce qui prouve qu'on peut aller. Alors à une certaine époque, le juge des référés que j'étais empiétait un peu sur le domaine administratif, puisque ce qu'ont bien compris les magistrats administratifs et leur environnement, et ils ont créé plus tard, voyant que j'empiétais un peu trop sur leur domaine, ils ont créé le juge des référés administratifs. Qui fonctionne, mais toujours avec, je dirais, non pas les lenteurs, mais avec l'organisation propre aux juridictions administratives, qui est quand même beaucoup plus lourde. Plus lourde, non pas moins efficace, mais plus lourde. Mais il y a un juge administratif des référés, il y a un judiciaire, et bien que l'on choisisse l'un ou l'autre selon la nature du contentieux, je pense que ce juge des référés doit être au cœur du dispositif qui permettra de contrôler l'application effective de la loi et dans des conditions rapides. Vous savez, il n'y a rien de pire que de constater, je l'ai vécu au quotidien, même dans des toutes petites affaires, quand quelqu'un voit son voisin empiéter son chemin ou son, sa place de stationnement, il va mettre 8 mois, 1 an pour obtenir satisfaction, et à quel prix ? Ce qu'il faut, c'est que le juge puisse intervenir rapidement, et puis mettre aussi le paquet financièrement. Il y a où à céder, parce que 100 000 francs, à l'époque c'était des francs, hein, 100 000 francs par jour de retard, ça faisait quand même très vite une grosse somme, et ils ont fini par comprendre qu'il était peut-être préférable de changer de modèle économique plutôt que de résister aux petits juges français tels que Jerry Young m'avait qualifié à l'époque de ces affaires. Alors donc un juge spécialisé, un juge formé. Alors comment, quelle formation ? Bien sûr, grâce aussi à cette approche technique à laquelle j'ai pu bénéficier, dont j'ai pu bénéficier, parce que dans le même temps, je dois le reconnaître, j'étais un privilégié. Je dirigeais l'important contrôle des opérations d'expertise de la Cour d'appel de Paris. Nous avions environ 10 000, 12 000 expertises l'an, je ne sais combien de milliers d'experts, vous voyez, donc ça faisait. Et grâce à ma connaissance à la fois des experts, du monde des experts, des rapports d'expertise, des spécialités expertales, eh bien j'ai pu me former, en quelque sorte gratuitement, aux technologies et aux questions techniques. Je faisais venir le soir dans mon bureau plusieurs experts, on échangeait. Nous échangions, et puis en échangeant, je découvrais certains éléments et je retraduisais cela ensuite dans ma décision, sans mettre en cause, évidemment, l'expert qui avait pu me fournir quelques indications techniques ou pas, mais c'était très intéressant. Donc déjà, l'environnement est important. Il faut pouvoir chercher. Et puis, il faut être curieux aussi. Un juge qui n'est pas curieux n'a pas sa place. Il faut être curieux. À l'époque, je sais, je dévorais toutes les revues, et en particulier celles qui n'existent plus aujourd'hui, toutes les revues de hackers. Et c'est là que je découvrais comment on pouvait intervenir sur un réseau, etc., à tel point qu'un jour arrive un avocat dans mon bureau, il me dit « Monsieur le juge, je suis obligé de vous le dire, j'ai rien compris, mais hier soir, j'étais tranquille dans mon bureau, il était 20h, subitement mes machines se sont mises en marche, y compris l'imprimante. » Et nous étions quand même dans les années 97-98. Hein. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui quand même, l'intrusion par des virus, les commandes à distance, etc. Même si aujourd'hui, ça devient beaucoup plus prégnant. Eh bien, nous avions pu remonter la difficulté. Donc, il faut être curieux. Et en étant curieux, on peut découvrir. Donc, ne pas hésiter à lire, à se former soi-même, et surtout à avoir l'esprit ouvert. Ne pas avoir de préjugés, comme l'ont beaucoup de personnes, préjugés sur ce qui doit être fait, etc. Ensuite, ce juge doit être servi par une procédure adaptée. Je parlais du référé. Il faut très certainement revisiter la procédure, qu'elle soit administrative ou judiciaire, pour que le juge puisse vraiment intervenir dans un contexte de procédure souple. Je ne dis pas irrespectueux des droits de la défense, pas du tout. Au contraire, les droits doivent être respectés, mais avec beaucoup de souplesse. Il n'y a rien de pire que ce cadre qui vous contraint à respecter un calendrier, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'entre le juge et les parties, un peu comme je l'ai découvert aux États-Unis, il puisse y avoir des discussions sur la façon d'avancer dans les procédures. Et ça ne marche pas toujours comme on le souhaite, hein, c'est sûr. Mais pendant près de 15 ans, les avocats venaient systématiquement me voir pour tout ce qui était le contentieux de l'Internet. Quand bien même aurais-je souvent débouté certains d'entre eux de leurs demandes. Mais ils se disaient, nous n'avons pas à recommencer devant un juge à chaque fois pour lui expliquer quel est le processus, comment faire, vous savez ce que c'est qu'une machine, vous savez ce que c'est qu'un écran, etc. Ils en avaient assez de tout cela. Et donc on voit bien, du côté des avocats, c'était pareil, il y a une demande. Du côté des citoyens également, un juge qui comprend... Je ne dis pas que le juge doive tout comprendre. Il peut se faire assister le moment venu. Mais il faut qu'il ait un esprit assez ouvert pour accepter l'explication et ne pas considérer qu'il est le meilleur, le seul à détenir la vérité. Nous ne sommes pas les seuls, et c'est parce que certains considèrent qu'ils sont tout seuls qu'ils commettent des erreurs judiciaires. Il faut accepter l'ouverture, le passage. Alors voilà ce que je souhaitais vous dire. Je sais que j'ai déjà été trop long. J'aimerais qu'on puisse réfléchir aussi à l'avenir, à partir de toutes les jurisprudences que vous aurez peut-être déjà pu initier, analyser, eh bien, qu'on puisse réfléchir au rôle d'un juge, mais quel qu'il soit. Je ne privilégie absolument pas le juge judiciaire sur le juge administratif, loin de là. Ça créerait quand même trop de problèmes dans notre pays, on le sait. Mais en tout cas, un juge qui serait adapté à tout cela. Alors, certains vous diront, oui, mais pourquoi uniquement pour le numérique? Ben parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est la vie, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est l'avenir, c'est même, je ne sais plus qui me le disait tout à l'heure, même les personnes d'un certain âge utilisent le numérique aujourd'hui. Et c'est vrai. Pour ma part, ça fait longtemps que je m'y intéresse. Après ma retraite de conseiller à la Cour de cassation, j'ai continué pendant 7 ans dans un cabinet d'avocats spécialisé justement dans ces questions. Mais maintenant, à 71 ans, j'ai repris ma retraite définitive. Je crois que je préfère participer à des petits colloques importants, voilà, plutôt que de travailler encore sur le terrain. Mais en tout cas, je souhaite cette réflexion nouvelle sur le rôle sur l'intervention d'un juge. Merci.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Gomez, pour ce regard très éclairant du praticien, du juge. Et je pense qu'il est important de rappeler, c'est que le droit a toujours besoin du juge pour se réaliser. On a souvent parlé de la réalisation du droit, de l'effet concret du droit. C'est le juge qui lui donne son effet concret, c'est le juge qui vient l'interpréter, qui vient combler ce qu'on appelle parfois les vides de la loi et vraiment lui donner tout son sens. Alors, à l'heure où parfois on évoque des projets de remplacer les juges par des algorithmes et de calculer automatiquement une décision de justice. Non, je pense au contraire qu'il faut que le numérique assiste le juge, mais que cette dimension humaine reste toujours présente et que le juge ait cet esprit curieux, interdisciplinaire quelque part, comme vous l'avez évoqué, ce qui l'aidera à mieux comprendre la réalité des problèmes juridiques.